faire des changements par rapport à la mise en texte de l'homosexualité et des sexualités queer dans les dernières années. Et du point de vue de la création littéraire aussi, parce que c'est quelque chose dont on est bien fiers, moi et Chloé. Tous les gens qui participent à la table ronde aujourd'hui sont aussi des créateurs. Donc du point de vue de la création, est-ce qu'il existe un lien entre l'identité sexuelle d'un auteur et son écriture, son œuvre? Comment ça s'inscrit dans le processus créatif? Comment articuler ces questions-là dans l'écriture? Donc, il y a une sorte de double mouvement que moi et Chloé, on voulait aborder aujourd'hui. Donc, à la fois, une dimension négative, c'est-à-dire penser cette absence du centre des écritures queer dans la littérature récente, mais aussi dans une dimension positive. Donc, pour penser, comme je le disais, un peu la place des identités sexuelles dans le processus créateur, mais aussi de parler plus généralement de l'esthétique des textes qui sont publiés puis qu'on peut lire. Donc, je présente nos participants. Je vais y aller en ordre de scène. Donc, Toineau Dumas est une personne genderqueer qui a publié quelques zines et deux livres de poésie. Et elle s'interroge sur la fluidité identitaire dans un monde qui commodifie et réprime les expressions non normatives. Son dernier livre est Animal Lumière, que voici. Marie-Ève Maréchal termine un doctorat en lettres françaises à l'Université d'Ottawa sous la direction de Lucie Joubert. Sa thèse, dont les recherches ont été financées grâce à une bourse du CRSH, s'intitule « Conjurer l'absence, pratique du tiers-espace dans les écritures lesbiennes francophones ». Elle s'intéresse entre autres dans une perspective décoloniale aux écrits des femmes, aux théories féministes, lesbiennes et queer, et du tiers-espace. Elle mène parallèlement à ses études une carrière d'écrivaine. Elle a publié chez Triptych le recueil de poèmes « La chambre organique ». Nicolas Giguère rédige une thèse à l'Université de Sherbrooke sur l'évolution des périodiques gays au Québec sous la direction de José Vincent et de Luc Pinas. Chargé de cours, il enseigne la théorie queer ainsi que l'histoire des périodiques littéraires et culturelles au Québec. Il a fait paraître divers articles scientifiques, a collaboré à des collectifs, dont le tout récent Dictionnaire des intellectuels au Québec, en plus de prononcer plusieurs communications et conférences liées à ses intérêts de recherche. Auteur d'un roman que paru chez AMAC, il a aussi publié divers textes de création et de critique littéraire. Donc voici que. La dernière et non la moindre, Olga Duhamel-Noyer a publié trois romans, Laurent du cosmonaute en 2014, Destin en 2009, qui a fait partie de la sélection du prix des libraires, ainsi que High Water en 2006, finaliste au prix Anne Hébert, en plus d'un essai intitulé Motel Univers. Elle est directrice littéraire des éditions Iotrope depuis 2006 et elle a soutenu, à l'aube du troisième millénaire, un doctorat en littérature comparée dont le titre était « Le kaléidoscope des drogues, intériorité du 19e sous influence ». Donc, je laisserai la parole à Toineau. D'abord, on va y aller en ordre comme ça pour les interventions et ensuite, on va y aller avec les questions.
Bonsoir. Merci à Kevin et à Chloé de m'avoir invité aujourd'hui. C'est un grand honneur de pouvoir discuter de queerness avec d'autres personnes et non juste dans des chambres fermées, comme ça arrive souvent. Je vais commencer, c'est-tu bon comme ça? Je vais commencer en lisant une citation de l'écrivaine américaine Maggie Nelson dans son livre Reorganize. Eve Kosofsky Sedgwick wanted to make way for queer to hold all kinds of resistances and fracturings, and mismatches that have little or nothing to do with sexual orientation. Queer is a continuing moment, movement, motive, recurrent, eddying, troublant, she wrote. Keenly, it is relational and strange. She wanted the term to be a perpetual excitement, a kind of placeholder, a nominative, like Argo, willing to designate molten or shifting parts, a means of asserting while also giving the slip. That is what reclaimed terms do. They retain, they insist on retaining a sense of the fugitive. Nelson, dans cette citation, où il se base sur les écrits de la théoricienne queer américaine, Eve Kosofsky Sedgwick, propose une certaine approche du queer qui m'intéresse beaucoup et dans laquelle je partage quand même plusieurs affinités. L'idée d'une identité en mouvement, à travers les formes, à travers le temps, l'espace, dans un devenir perpétuel. C'est un peu l'approche que je partage aussi dans mon écriture par rapport à l'identité. Donc plutôt vers une pratique de l'identité que vers une illustration, une explication ou mettre l'accent sur le mouvement dans les formes, à travers les formes. Donc c'est une façon de bouger dans tes formes prescrites, de résister aussi à l'assignation de genre, dans le cas des personnes queer qui contestent leur assignation de genre à la naissance, de traverser les formes littéraires aussi. Donc c'est un double front de résistance et de résilience, de fluidité. Résilience que j'associe à la fluidité. Ça nomme sans figer. Donc pour moi, comme la pratique littéraire, le queer est une pratique aussi. Des mouvements, une incertitude active, une sorte de production d'identité dans l'action et dans l'écriture, qui est une action. Comme le queer est une performance d'identité active dans le quotidien, dans la vie de tous les jours. La pratique queer oppose l'action à l'inertie, le dire au silence, le devenir à la conservation. La pratique dépasse aussi l'identité quand celle-ci se durcit, se fige et convient pas aux réalités qui sont flagrantes pour plusieurs personnes. Je vais vous lire un poème qui parle un peu de ça. Sur la lumière s'étendent nos intentions de naître, à tout moment, à rebours et à répétition. Les formes que prennent nos corps éclairés de désir, notre sous-culturelle envie de nous arrêter à chaque fontaine, attendre l'instant où refondre l'alliage et que le corps commence à nouveau. Dans ce poème, je revisite un peu l'idée de corps qui est au cœur de l'écrit de beaucoup de personnes, pas un sujet très original, somme toute, mais qui est aussi une donnée qui semble pour beaucoup de personnes comme figée, de par l'assignation qu'on fait du genre à la naissance, entre autres. Ici, j'expose une idée comme quoi le corps est mouvement, est en devenir, est en changement. Un corps qui change selon l'éclairage, selon la posture donnée, et qui recommence constamment, qui peut être constamment réinventé, et qui se réinvente constamment dans la pratique qu'on fait de la sexualité, ou même l'écriture, la représentation du corps en écriture. L'écriture de ce recueil-là était marquante pour moi, pour plusieurs raisons, mais aussi, notamment, en lien avec ma propre vie, évidemment. C'est quelque chose que j'ai vraiment de la misère à diviser de la vie, l'écriture. C'est quelque chose de très, très, très intime, passionné, et aussi qui se met sur la sphère publique, donc qui un peu s'admet critiquable et... c'est-à-dire qu'on peut faire un discours, ce qui me crée des malaises quand même fréquents, mais bon. J'ai inscrit beaucoup de choses dans ce recueil-là, que consciemment ou non, parce que pendant le processus d'écriture aussi, mon identité a elle-même évolué assez radicalement. Et certaines choses que j'ai inscrites dedans volontairement, et d'autres absolument pas, que quand je relis le recueil, comme je l'ai relu récemment, pas pour moi depuis longtemps, je me disais, waouh, c'est le fun, qu'est-ce qui se trouve là-dedans, des fois. Et d'autres fois, c'est inquiétant. Donc, des choses que j'ai plus inscrites entre la conscience et l'inconscience, ce serait l'évolution des inscriptions genrées dans le livre change, en commençant par un jeu narratif référé au masculin surtout, et tout au long du recueil qui évolue plus vers un féminin, un jeu qui passe au nous aussi beaucoup. Pour moi, c'était volontaire, oui et non. C'était aussi comment je me suis senti à travers le processus temporel de l'écriture qui a changé et que j'ai inscrit comme ça un peu volontairement, mais aussi qui suivait ma ligne biographique de comment je me sentais et qui a encore évolué après la publication du recueil. Donc, par exemple, dans la petite bio que j'avais écrite, j'ai juste une variance de il et elle, et maintenant j'utilise un autre pronom. Bon, ça change. C'est chaud que son mouvement. Le passage du masculin au féminin est évidemment un processus issu de la déconstruction, du questionnement de l'identité, Mais c'est aussi une invitation, c'est un statement comme personnel en quelque sorte, mais c'est aussi une invitation aux lecteurs, aux lectrices, à tout le monde qui lit le livre de faire de même. Je veux dire, ouais, c'est une invitation. Je peux vous lire un peu qui reflète comment je perçois, comment je n'exclus pas la personne qui lit ce processus-là. Personne ne demeurera intact. Chacune sera touchée, atteinte dans ses forteresses. Entre le pli des couvertures du magma, entre les mailles de l'air et du gel, une fendaison de soi pour apparaître silencieuse et or. Merci.
Merci beaucoup, Toineau, pour cette introduction. Je passe maintenant la parole à Marie-Ève.
Bonjour tout le monde. Merci de votre présence ce soir. C'est super apprécié. Je vais commencer en disant que je reconnais qu'on se rassemble ici sur le territoire des Kanyankeaka, autrement dit les Mohawks. Voilà, je me présente. Je suis chercheuse et écrivaine en même temps. J'ai publié un recueil de poésie, comme Kevin vous le mentionnait, et j'espère faire publier un roman peut-être cette année. Je pourrais commencer en parlant un peu de ma posture à travers tout ça. Moi, personnellement, je m'identifie comme lesbienne butch, et ça se transparaît beaucoup dans mon écriture. En façon de parler aussi, je prends les pronoms féminins, mais on peut me donner des adjectifs masculins, ça, il n'y a pas de problème avec moi. Mon écriture a fait beaucoup aussi ce... Comment dire? Je ne sais pas quoi faire, mettons, d'une masculinité qui a été... dans laquelle j'ai été projetée quand j'étais jeune. J'ai un peu été élevée comme un garçon, sachant que j'étais une fille. Et c'était très... Et c'est quelque chose qui me suit et qui se développe. Et puis là, je suis rendue à 31 ans, si je ne m'abuse. Et puis... Et puis, ça devient de plus en plus fascinant, ce parcours-là, et ça ressort. Puis au début, je pensais que c'était quelque chose de très mauvais, cette masculinité-là. Parce que avant d'être... j'ai découvert dans ma vie que j'étais lesbienne, et puis ce fut grandiose. Et puis... mais je veux dire, j'ai été lesbienne... Avant d'être féministe, je me considère comme féministe aussi, j'ai été lesbienne. Et le seul modèle que j'avais, mettons, de séduction ou de rapport amoureux, sexuel et entre femmes, c'était avec un rapport très, très macho. C'était mes seuls, j'étais très macho, même avant j'ai été homophobe dans ma vie, parce que c'était le seul modèle de masculinité qu'on m'avait montré. Une masculinité très toxique. Et plus je vais de l'avant avec mon écriture, plus je me rends compte comment qu'en fait il y a plus manière de déconstruire ce type de masculinité-là. Pas juste renier ça, ça fait partie de moi, mais il y a façon à la revendiquer. Et cette nouvelle identification comme butch, je l'ai prise depuis peut-être les deux dernières années. C'est une façon pour moi d'entrevoir un nouveau rapport justement à la masculinité. Et puis voilà. au niveau plus de la recherche et de ce qui nous amène aujourd'hui, on m'a demandé de répondre à deux questions en fait. La première, y a-t-il une sous-représentation de l'homosexualité et des sexualités queer dans la littérature québécoise contemporaine? Et la deuxième, est-ce que les œuvres du passé qui mettent en scène des personnages trans ou homosexuels tant que femmes connaissent un héritage dans le corpus contemporain? Très grosse question, je vais essayer d'y répondre. Donc, à la première, s'il y a une sous-représentation, alors moi je dirais oui, assurément, puis j'en parle parce que mes recherches m'ont amené à travailler avec les écritures lesbiennes francophones. J'ai un immense corpus de 18 œuvres, 9 québécoises, 9 françaises. Alors, c'est à travers cette recherche-là, je dépose ma thèse cet été. Donc, c'est pour ça que je me permets un peu d'en parler. J'ai un peu de connaissances là-dessus. Alors, oui, assurément, je trouve qu'il y a une sous-représentation. Mais il faudrait s'entendre par là. Qu'est-ce que, dans la littérature québécoise, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que si on entend juste ce qui se publie dans les maisons d'édition, ce qui se vend dans les grandes librairies, par exemple... Oui, mais ça se passe aussi. Il y a une représentation qu'on peut trouver ailleurs, comme de pourquoi j'avais des îles, justement. Et c'est deux îles ici que j'ai trouvées à Montréal dans le cadre d'une. Il y avait une vente d'artistes queer littéraires, en fait. Ils sont en anglais, côté anglophone, et puis celles que j'ai amenées, c'est des auteurs de background culturel non blanc, en fait, non? Et ça se trouve beaucoup dans les milieux alternatifs, ces zines-là. Ce n'est pas publié, on ne voit pas ça dans les grandes maisons d'édition, on ne voit pas ça chez Renombré ou chez vos parents, mettons. Mais ça existe. Ça n'a pas la même visibilité, toutefois. La question de qu'est-ce qui peut être visible, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent prendre la parole, qui sont capables de s'auto-déterminer. Par exemple, dans le zine ici, c'est une femme pakistanie qui s'identifie comme queer. Elle s'auto-détermine, elle prend la parole, mais est-ce qu'elle réussirait à prendre la parole à travers les maisons d'édition? Qui a accès à cette visibilité-là? C'est une grosse question. On habite dans les cultures du visible et tout ne passe pas. Même les représentations, mettons, moi je parle en tant que lesbienne, donc les représentations de lesbiennes qu'on peut voir, aussi dans d'autres médias que ceux de la littérature, peuvent être très léchés, très hétérosexualisés en fin de compte. Qu'est-ce qui peut être présenté? Ben, ça peut être des lesbiennes très féminines, justement. Depuis les. The L Word qui est passé, c'était une série américaine, là, et la lesbienne. Comment elle appelle ça? Lesbienne. En tout cas, une lesbienne très. Ouais, très, très ferme, en fait, oui, qui est rendue. Puis ça, c'était la lesbienne acceptable à montrer, parce qu'en fait, on ne voit pas trop la différence, etc. Donc, c'est une question qu'on peut. Je peux soulever. Et puis, je pense qu'on est en manque de représentation aussi. J'ai des amis qui cherchent, qui identifient comme lesbienne et qui cherchent ces représentations. Et dès qu'il y a un livre qui sort, c'est comme « Hey, t'as-tu vu ça, mon Dieu, faut aller lire ça. » Enfin, c'est le fun, tu sais. Tant dans le cinéma que dans la littérature. Moi aussi, j'ai pas grandi avec grand-chose de représentation lesbienne, encore moins en tant que représentation butch, j'en ai jamais vu. Et en plus, dans le milieu francophone, c'est assez limité. Je veux dire aussi, ce qu'on voit des représentations dans la sous-représentation, c'est surtout des personnages, en fait, des personnages blancs, avec des corps fonctionnels, d'une classe sociale assez moyennisée. C'est un seul type de représentation. Ce qui est sous-représenté, donc, c'est les membres des communautés LGBTIQ qui sont métis, handicapés, latinos, latina, noirs, pauvres, croyantes, les personnes bispirituelles. Elles existent, c'est des personnes que je côtoie personnellement, que je vois dans mon quotidien, dans ces milieux alternatifs-là. Mais les représentations ne sont pas là. Je pense, il y en a certaines qui ont déjà été là. Je pense à Anne-Marie, l'auteur Anne-Marie Alonso et Jean-Marc Jutras. Anne-Marie Alonso qui notamment cofondé la maison d'édition 3 et le festival littéraire 3 aussi qu'il y avait eu à Laval. Madame Alonso, c'était une personne qui se définissait comme lesbienne. Elle était aussi handicapée, mais elle préférait le terme d'immobile, justement, plutôt qu'handicapée. Oui, il y a tout un beau glissement magnifique. Bon, ça n'a pas empêché, on s'entend, de participer à plein, de collaborer à des revues, de partir de maisons d'édition, etc. Et elle mettait en scène, justement, le corps immobile et lesbien. Et cette femme-là avait des origines égyptiennes aussi. Mais on a vu ça un petit peu, donc c'était pas très... Anne-Marie Nodier n'était pas une posture très, très politisée, mais ça se voyait en littérature. Je pense à des recueils comme Geste ou le conte Galia qu'elle nommait Amour, qui est vraiment magnifique. Jeanne d'Arc Jutras, elle a publié deux romans, dont un, Georgie, qui est dans mon corpus de thèse aussi. Puis ça met en scène, en fait, une femme lesbienne très, très... En fait, qui vient d'un milieu très pauvre aussi, qui est soumise à beaucoup de violences structurelles, sociales, familiales, etc. Moi, personnellement, ça fait beaucoup de bien de lire ça. C'est rendu aussi avec un joual un peu rafraîchissant. Et puis, et toute la colère, il y a beaucoup de colère qu'on entend presque dans ce roman-là de Georgie. Et puis, on suit la personnage à travers ses déambulations un peu dans les milieux gays de l'époque aussi. À l'Université Concordia, il y avait un bar où les gens... Avant, le village, en fait, était beaucoup plus de ce côté-là. Était pas... Ça, c'est à cause de l'argent de drapeau. Sur l'histoire. Enfin! Oui! Donc, c'est ça ce que j'ai constaté dans la représentation, ce qui semble passer, ce qui semble être acceptable de l'homosexualité. C'est l'homosexualité ou le gender trouble, genre, ce qui est en fait gender queer, mais tout ce qui est dépolitisé. On peut en parler, mais tant que ce soit absolument dépolitisé, que ça reste une question d'identité sexuelle, donc d'un choix individuel. C'est sûr que moi, ma perspective est plus au niveau lesbien. Peut-être qu'on va pouvoir vous en parler d'une autre réalité, mais moi, c'est là-dedans que je suis. Et puis, ce que je vois, ce qui passe, voilà, c'est ça. Et on... Donc, une identité sexuelle, mais non pas comme une identité, mais une pratique qui remettrait en cause quelque chose comme un système patriarcal, hétérosexiste, dans la société québécoise et à travers ses institutions. Je pense que c'est dangereux. Visiblement, ça a l'air encore dangereux ou effroyable d'en parler, parce que c'est pas là. C'est très frustrant, moi, personnellement, quand je vais lire ça, de constater cette dépolitisation-là. On peut en parler, mais tant que c'est correct, tant que tu paraisses comme normal. C'est un peu le même discours que j'entends des fois dans ma famille, auprès de mes parents. J'ai pas une famille la plus libérale, mettons. Et puis, par exemple, j'ai repensé en 2014, on a voulu introduire dans les CPE, les écoles primaires, des livres qui abordaient des réalités LGBTQI. Ça, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça créait un petit tollé quand même. Et puis, le Devoir, il y avait un article du Devoir qui en parlait, puis il y avait des commentaires atroces aussi en cet article-là. Puis ça montrait comme quoi qu'en fait, on faisait juste tolérer les personnes qui s'identifiaient comme lesbiennes, bi, trans, etc. Puis les commentaires étaient très parlants aussi. Puis c'est pas juste ces commentaires-là. Je pense qu'il faut se soucier de ces commentaires-là. C'est important. On vit en société. Il faut dire, ah non, c'est juste quelques individus. C'est pas vrai. J'en ai croisé aussi des weirdos qu'on appelle, etc. Mais ça fait mal et ça existe. Et la tolérance est un signe, en fait, que quelque chose ne va pas, qu'on n'est pas accepté, en fin de compte, qu'il n'y a rien que passé. Et puis les commentaires par rapport à cette situation-là, c'était comme, ah, oh, venez pas toucher nos enfants, venez pas vous... Ils parlaient de lobbyer, en fin de compte. Vraiment, il y a un lobbyer comme ça. Et puis, c'était effroyable. Il fallait pas mélanger les enfants. Fait qu'on percevait pas qu'il y avait déjà quelque chose de très hétérosexiste à la base. Et pour moi, ça, c'est un recul parce que les écritures, par exemple, lesbiennes au Québec, ont parti en même temps que les mouvements, ont été portés par les mouvements féministes dans les années 70. Les écritures lesbiennes ont apparu en tant qu'écriture politisée. Ce n'était pas séparé, en fait. Alors, je pense au livre et au théâtre de La Magnifique Je vais te marcher son. Je pense à Marie-Claire Blais, je pense à Nicole Brossard. Quand elle mettait en scène le lesbianisme n'était pas juste une question d'identité sexuelle. C'était une perspective sur le monde qui te permettrait de voir complètement autre chose. Et qu'est-ce qu'on voyait? C'est l'hétérosexisme, en fin de compte. La base était la base tranquille dans laquelle on vivait et comment tous les systèmes tenaient ça en place. Donc ce n'était pas juste un rapport à une question individuelle. Et ce qui est surprenant, moi ce que je constate justement, c'est qu'on a balancé vraiment d'une écriture politisée à une écriture très dépolitisée au niveau de ce qui se passe au niveau de l'institution. Encore une fois, je vous dis, dans les îles, par exemple, la politisation, elle est encore là et elle est beaucoup plus diversifiée que ce qu'on voyait avant. Parce que dans le temps aussi, Nicole Brossard, etc., elle mettait en... Il y avait beaucoup d'intertextualité avec des féministes et des lesbiennes états-uniennes et européennes. Je pense à Mary Daly, qui a écrit Gynecology aux États-Unis. T-Grace Atkinson, René Vivien en Europe, Gertrude Stein, Anne-Marie Alonso fait des liens avec la peintre Georgia O'Keeffe aussi. Il y avait toute cette idée de mémoire, de se rappeler de quelque chose, et aujourd'hui, je constate que c'est à peu près tout absent, ce niveau de reconnaissance-là. Il y a une isolation qui est très parlante aussi, et puis qui va perdre aussi avec la géographie, dans le sens qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun bar lesbien, par exemple, à Montréal. Alors que dans le temps, il y a eu le Golden Age, qu'on appelait dans les années 80, il y a eu beaucoup plus de bars lesbiennes et lesbiennes achetaient de la place. Elles étaient visibles. Maintenant, elles ne sont plus visibles du tout. On est encore là, par exemple, mais c'est ça, ça n'empêche pas qu'on existe. Mais je vais essayer de me retrouver dans mes notes. Oui. Voilà, tolérance. Oui, aussi, je voulais dire que c'était bien de se rappeler que si à Montréal, on pense peut-être qu'on est dans l'impression qu'il n'y a rien là d'être gay, lesbienne, trans, etc. Peu importe ce qu'en dit M. Duhem. Des jeunes, des moins jeunes, subissent toujours des violences aussi. Même à Montréal, dans certains quartiers, mais en région, notamment, on m'a conté plein d'histoires d'horreur. Des jeunes qui se font sortir par leurs parents de chez eux, qui sont en cristothérapie. Pour les gens qui savent pas, c'est quoi une cristothérapie? C'est des parents qui envoient leurs gens dans des trucs religieux pour apprendre à ne plus être homosexuel, en fin de compte. Et ça existe encore au Québec, ça. À Montréal, on peut être dans l'impression qu'on n'a pas ça plus privilégié, Mais ces violences-là existent toujours. Fait que je pense que c'est bien de garder ça en tête.
Si tu veux, on y reviendra. Ben non, c'était super intéressant, c'est vraiment beau parce que je veux que tout le monde puisse avoir son temps de parole. Merci beaucoup pour ton intervention qui était super intéressante. On va y revenir de toute manière. Je passerai la parole à Nicolas Giguère.
Alors, merci Kevin, merci aussi à Chloé, merci à vous tous aussi d'être présents. Donc, en fait, mon intervention, je vais la faire un peu en trois temps, c'est-à-dire d'abord peut-être revenir sur une question de terminologie, ensuite justement parler, comme Marie aussi vient de le faire, en fait, cette question de reconnaissance justement des écritures, disons, de la différence sexuelle, et enfin peut-être caractériser ou essayer de revenir un peu justement sur cette production récente, quelle est-elle aussi, comment est-ce qu'on peut apercevoir comment elle se démarque, qu'est-ce qu'on peut remarquer au niveau de l'écriture. D'abord, en fait, justement, comme je mentionnais, une question de terminologie, puisqu'on entend souvent parler de littérature gay, littérature lesbienne, de littérature LGBTQ, et on peut aussi donc ajouter, agrandir l'acronyme. Et en fait, pour moi, justement, c'est des catégories, ou en fait, justement, l'acronyme qui pose problème. Pourquoi? Parce que, justement, on ne sait pas nécessairement de quoi on parle au juste, dans ce sens où il y a, par exemple, des auteurs gays, il y a des auteurs lesbiens queer qui décident, pour des raisons ou d'autres, de ne pas nécessairement mettre en scène dans leurs œuvres des questions liées à la sexualité, alors que, justement, il y a des auteurs hétéros qui, eux, vont le faire pour sympathie, peu importe, mais bref, on remarque que finalement, il n'y a pas nécessairement une adéquation, certainement, je pense, entre disons, la sexualité de l'auteur et ce qu'il m'enseigne dans son œuvre, surtout avec un acronyme comme LGBTQI et ainsi de suite. C'est que ce que je trouve un peu problématique, c'est qu'on met, on accole finalement, on met les uns à côté des autres, finalement, des formes de sexualité différentes, donc des expériences de la sexualité différentes, qui appellent aussi, à mon sens, des formes d'écriture qui sont aussi différentes, qui finalement se distinguent les unes des autres. Donc, on met finalement les uns à côté des autres des expériences d'écriture qui, à mon sens, sont distinctes, et c'est pour ça que pour moi, c'est une catégorie trop générale, à la limite un peu fourre-tout galvaudée, qui ne rend pas compte justement des spécificités des écritures qui sont en jeu. Donc pour moi, ça m'apparaît plus opératoire, plus intéressant de parler peut-être justement de représentation. Je pense ici justement, d'un point de vue théorique peut-être, à l'article qu'Isabelle Boisclair et Laurie Saint-Martin publié dans la revue Recherche féministe, qui est le titre exact, donc les conceptions d'identité sexuelle, le postmodernisme et les textes littéraires. Donc, cette idée que, justement, aller plutôt regarder du côté des représentations dans le texte littéraire, comment ça se joue, donc au niveau, par exemple, de l'écriture en tant que telle, la scripture, la sémiotisation, comment on rencontre de la sexualité dans un texte donné, peu importe, donc son genre, entendre ici genre littéraire, roman, récit, poésie, etc. Donc, ce qui m'amène finalement un peu, donc après, disons, cette espèce de préambule à propos justement de la terminologie, il y a une autre problématique, qui m'apparaît tout à fait criante, c'est justement la question de la reconnaissance, comme parlait Marie-Ève, et justement de la diffusion, de la visibilité justement de ces écritures, de la différence sexuelle. Le problème se pose certainement donc en aval, c'est-à-dire du point de vue de la réception des textes. Donc, c'est clair qu'il y a peut-être certains de ces textes qui passent un peu sous le radar, qui passent inaperçus. Mais très certainement, et j'ai peut-être envie de me pencher là-dessus aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais certainement d'un point de vue historique, vu que ma thèse aussi, je l'ai faite sur l'évolution des périodiques gays, on pourrait dire, disons, d'un point de vue plus large aussi, je me suis intéressée disons, à l'édition de textes qui ont mis en scène justement l'homosexualité, et ce que j'ai vu, c'est que d'un point de vue historique, justement, le problème se situe beaucoup en amont, donc vraiment donc du point de vue de la production, c'est-à-dire vraiment de l'édition. Pourquoi donc, justement, c'est très clair qu'il y a des éditeurs, des entreprises éditoriales qui affichent une certaine frilosité, d'un point de vue historique. Peut-être moi aujourd'hui, je vais en revenir dans, disons, dans un deuxième sous-point. Vous allez voir, mais en fait, d'un point de vue historique, très certainement, il y a une frilosité par rapport justement au texte qui mettait en scène et que c'est la différente, les différentes formes de sexualité qui s'écartaient de la norme, ou de la soi-disant norme hétérosexuelle. Pourquoi? Ben, évidemment, pour différentes raisons. D'abord, certainement, cette idée de... D'accord, donc je vais finir peut-être avec ce deuxième point, mais en fait, la volonté de... pas sacrifier peut-être sur, en fait, on pourrait dire, le grand autel de la littérature, de pas rendre, comment je pourrais dire, de pas axer, en fait, sur un aspect qui est jugé secondaire, c'est-à-dire la sexualité, alors que très souvent, dans les textes, c'était plutôt un aspect, donc, qui était extrêmement novateur, et souvent, donc, qui était mis de l'avant, qui était vraiment absolument central au niveau des œuvres. Donc, c'est l'idée, en fait, on veut pas nécessairement sacrifier, donc, l'idée, finalement, d'une littérature universelle qui parle à tous. Ce qui amène aussi une autre, peut-être, question, c'est-à-dire plutôt celle du lectorat. Donc, certes, pour certains éditeurs ou entreprises éditoriales, c'était une façon, publier de tels textes, c'était ni plus ni moins aussi limiter le lectorat, donc s'intéresser à un lectorat trop précis, ce qui amène évidemment des considérations peut-être plus marketing, des considérations économiques. Donc, certains ont plutôt soit gommé, par exemple, les spécificités des textes, donc chercher à les camoufler, à les dissimuler. Encore, ils ont refusé parfois certains de ces textes, donc qui se ramassaient dans, aux oubliettes ou qui étaient donc plutôt relégués, qui étaient plutôt donc relégués au tiroir. Et qu'est-ce finalement, quelle solution s'offrait aux auteurs, à moins qu'on soit déjà, disons, très célèbre, qu'on ait une carrière établie, exemple Michel Tremblay ou Marie-Claire Blais, quelle solution s'offrait alors aux auteurs? Ben, très certainement, en fait, j'en vois à peu près deux. D'abord, cette idée, ou trois, disons, la première, se taire, tout simplement, donc demeurer, laisser les textes de côté, passer à autre chose. La deuxième, l'auto-édition, donc décider de créer, plusieurs ont fait ça, André Gide l'a fait pour Coridon, entre autres, Jean Genet aussi va le faire pour ses premiers textes, où ça va être l'édition clandestine, l'édition anonyme, distribuée sous le manteau, mais encore là, donc ça permet pas d'avoir une diffusion élargie, ça s'adresse donc surtout aux pères, aux amis. Ou enfin, ce qu'on voyait aussi comme autre stratégie, c'était de se tourner peut-être vers des maisons de plus petite taille, des structures éditoriales justement qui mettaient, donc, qui insistait surtout donc sur la littérature, qui mettait en scène donc justement des écritures justement de la différence sexuelle. Je pense ici au Québec, donc des cas donc plus récents, par exemple la collection de l'art de la sortie aux éditions Stankey, qui était active entre 99 et 2001 et qui était dirigée par Pierre Salducci. Je pense aussi, peut-être encore plus récente, la collection pop, en fait homonyme des éditions Pop Fiction, qui était spécialisée dans l'édition de genre populaire, donc fantasy, science-fiction, littérature de genre plutôt, où je peux penser aussi à peut-être encore la plus, et toujours active en fait aussi, l'Arc-en-Ciel littéraire, dirigée par Jean Roy, mais qui édite surtout des collectifs, et finalement des structures qui soit disparaissent assez vite de la circulation, ou encore qui, un peu comme l'arc-en-ciel littéraire, donc se retrouve pas nécessairement dans le circuit traditionnel du livre, le circuit de la librairie, se retrouve pas nécessairement non plus dans diffuser largement. Donc encore là, ça permet, en fait, ça restreint en quelque sorte le lectorat un peu de ces auteurs. Mais ce que je remarque en fait dans la production, oui, très 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 récente, c'est justement une ouverture peut-être de la part des éditeurs québécois, je pense surtout aux jeunes éditeurs, disons de dizaines, une quinzaine d'années, jeunes maisons d'édition comme justement Héliotrope avec Dans la cage de Mathieu Leroux, je pense aussi à La Mèche avec Ici la chair est partout, Amac évidemment, mais d'autres aussi qui vont prendre des risques, qui vont oser éditer des textes qui disent haut et fort justement ces différences sexuelles. Et ça, je pense que ça doit être salué.
Merci Nicolas Giguère. Olga Duhamel-Noyer.
Bonjour à vous. D'abord, merci les deux. Attends, je m'organise. Merci Chloé de de l'invitation et merci de poser ces questions-là. Je vais esquisser quelques réponses. Mais moi, je me suis concentrée sur la question de la représentation dans... Est-ce qu'on m'entend? De la question dans l'institution littéraire des textes gays, puisque chez Héliotrope, on est... Bon, vous savez qu'aujourd'hui, on est dans une économie de niche, on peut s'en sortir que par la niche, puis on a choisi notre niche, et puis c'est vrai qu'on publie beaucoup de textes de femmes, on publie beaucoup de textes homo, beaucoup de textes de gens qui sont très décidés dans leur indécision sexuelle, dans leur bizarrerie et tout ça. Puis je dois dire que c'est pas une question de courage, c'est une question pour nous, il y a vraiment un plus dans ces textes-là souvent. Il y a vraiment quelque chose qu'on aime là dans le minoritaire. C'est comme ça que je le dirais. Mais on n'est pas si sectaire et on ouvre quand même aux hommes hétérosexuels notre maison d'édition quand ils sont assez bons pour être dans l'universel de la littérature héliotropique, si je peux dire ça comme ça. Donc je suis, Florence est là aussi, nous sommes les éditrices de Catherine Mavrikakis, de Verena Stéphane, de Mathieu Leroux. Je nomme vraiment les auteurs là qui sont les plus ostensiblement homo, parce que il y a aussi tous les autres qui sont assez queer, etc. Et je suis, nous sommes aussi les éditrices de Kevin Lambert, qui vient faire une entrée fracassante dans nos lettres. Enfin, je le dis comme ça. Donc, je suis ici comme directrice littéraire de cette maison-là. Je suis aussi ici comme auteur, parce que j'ai publié trois romans, tu en parlais tout à l'heure. Mais mon premier roman, High Water, c'est un roman d'amour. Et donc, c'est un roman très sexuel, puis il raconte l'histoire de la passion d'une femme pour une autre femme. J'allais dire des vulgarités à partir du texte de Nicolas Giguère que j'ai lu en fin de semaine dernière, mais je voulais juste dire qu'on y suçait presque autant que dans mon livre que dans le tien, mais en tout cas, ça c'est comme une autre histoire. Comme on me donne gentiment la parole aujourd'hui, je vais en profiter pour dire quelque chose, puis juste je lance ça comme ça, on pourra discuter. Moi, je refuse complètement le mot lesbienne. C'est quelque chose, pour moi, c'est comme si on m'appelait la youpine ou la négresse, ou si j'ai envie de m'appeler youpine, négresse, lesbienne, je le ferai. Mais pour moi, c'est une insulte. Je comprends pas. Il faut vraiment qu'on soit l'open prolétariat de l'orientation sexuelle homosexuelle, les lesbiennes, pour qu'on accepte d'être appelé comme ça. Personnellement, ça me fait plaisir de le dire. C'est comme tapette, quoi. Si on est une tapette, on joue là-dessus. Je peux dire Gwyn, Gwynas. Mais je veux pas que ça soit, oui, on fait de la littérature lesbienne, je refuse complètement. Bon, ça nous fera un truc à discuter tout à l'heure. Mais maintenant, la question qui est posée aujourd'hui, que je prends très au sérieux, qui concerne la représentation, comme c'est la littérature qu'on choisit. Puis nous, c'est vrai qu'on choisit le centre, on n'a pas envie d'être un zine. C'est bien que ça existe, ces choses-là, évidemment, c'est pas la question, mais nous, on a envie d'être on a envie d'être au centre, on a envie de devenir l'établissement, on a envie d'être mainstream. Mais avec ce qu'on aime, ce qu'on défend, on a envie d'amener ce qu'on défend au sommet, si je peux dire ça, de la popularité. Non, mais vous comprenez l'idée, quoi. On n'a pas envie d'être de côté, mais on va pas faire de concessions là-dessus sur ce qu'on veut défendre, puis ce qu'on estime être important et intéressant. Mais en même temps, à mon sens, il n'y a rien de plus insidieux que l'universel. C'est quelque chose de complètement visqueux. On veut amener les choses au centre. On peut pas non plus attendre un égalitarisme où on va mettre le quota comme ceci, comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Tout est assez insidieux dans cette façon-là d'atteindre, je le dis simplement, mais l'universel. Parce que c'est une question de perception, de stratégie très complexe. Et c'est pas de l'ordre de la plainte ou de la lamentation. C'est pas les lamentations qui vont régler ça, qui vont nous permettre d'aller au pinacle, si je peux dire ça comme ça. Je voulais juste vous raconter une anecdote un peu simplette, mais vous avez sans doute entendu des choses comme ça mille fois, mais je voulais lancer ça. Il y a quelques années, il y a eu une... Vous savez que la nouvelle maladie du monde des livres, c'est de faire des listes. Hein. Il y a toujours des listes, les 10 ceci, les 10 cela, et puis on demande toujours aux auteurs de faire des listes, les livres qui vous ont le plus marqué, etc. Mais c'est bien parce que ça permet de parler et tout ça. Mais donc, il y avait cette maladie des listes, un jour, avec une journaliste qui interviewait tout le monde. Il y avait deux femmes auteurs, puis un homme auteur. Alors, je veux parler de cet homme auteur qui était là. C'est un auteur qui est presque jeune, il a à peu près mon âge. Je veux dire, bon, il n'est pas très vieux, quoi. Je ne dis pas que ça change tout, mais en tout cas. Et il y avait donc cette journaliste qui était très souriante, et lui, il avait sa liste, et c'était la liste des 10 livres qui vous ont le plus marqué dans votre vie. Et évidemment, dans sa liste, il n'y avait pas une femme. Je ne parle pas des queer, là, mais ça vous, bon, on arrive toujours vers l'homosexualité avec les femmes, parce que c'est déjà dans le minoritaire. Alors, sur ces 10 auteurs, il n'y avait pas une femme. Évidemment, les femmes, elles avaient mis des hommes dans leur truc. C'est pas des extrémistes non plus, et lui il avait mis que des hommes, et la journaliste elle a gardé le sourire, mais elle lui a fait remarquer, lui il était pas content du tout de ça, parce que il disait, mais moi j'ai vraiment fait honnêtement ce qui m'a le plus marqué, puis c'est ça. Alors voilà, je veux juste dire cette chose là c'est ça que je veux dire par insidieux. Pour beaucoup de gens, c'est juste comme ça, quoi. Une littérature écrite par une femme, mais c'est une littérature de femme. Donc, je dis ça, puis je veux, pour faire un peu le grand écart de ça, lire une petite phrase d'Annie Ernaux, qui est comme dans le champ inverse de ça. Je trouve que ça pose quelque chose aussi. Alors elle dit, il y a à l'intérieur, c'est une position très connue aussi, il y a à l'intérieur du champ littéraire comme ailleurs, une lutte des sexes, et je vois la mise en avant d'une écriture féminine ou de l'audace de l'écriture des femmes comme une énième stratégie inconsciente des hommes devant l'accès de celle-ci en nombre plus grand à la littérature pour les en écarter en restant les détenteurs de la littérature, sans adjectif là, pour le coup, la littérature. Au jour le jour, je veux pas, pour ma part, regarder la réception des titres que je défends avec cet angle-là. Je veux pas le faire. Bon, cela dit, il y a des études très documentées, très bien faites. Là, je donne encore l'exemple de la littérature écrite par des femmes. C'est plus facile, hein, on va pas juste regarder la question de l'homosexualité, tout ça. La littérature des femmes est très mal représentée, tous les chiffres le disent, hein. Bon. C'est bébête, là. C'est facile, la moitié, il y a la moitié livre de femmes, moitié livre d'hommes, puis bon, c'est majoritairement les hommes qui gagnent les prix, qui ont remporté les prix, qui ont la page couverture et tout ça. C'est juste pour dire que c'est insidieux, hein, que je dis ça. Moi, évidemment, je regarde pas ça, parce que c'est pas mon tempérament, puis je veux pas être toujours dans j'ai pas envie de débusquer une potentielle, injustice, parce que je me concentre sur aller au pinacle, amener les auteurs au centre. Non, mais, donc c'est une façon de le dire, quoi. Mais je peux l'avouer ici entre nous, que lorsque les textes que je défends et sont pas, ou qu'on défend, sont pas sur les listes des prix, je marmonne pour moi-même que les gens sur les jurys comprennent rien à la littérature, la vraie, avec un grand L. Et pire que ça, je fais pas juste le ruminer avec Nietzsche, je fais pas que marmonner pour moi-même que les jurys n'entendent rien à la littérature, je le pense.
Ouais. Merci Olga, merci à vous quatre pour cette intervention qui était vraiment intéressante. Il me semble avoir quelque chose qui se noue autour de la question de la représentativité, de la représentation, évidemment. C'est dans la problématique de la table ronde qu'on a décidé d'organiser, moi et Chloé. Puis on était bien conscients des paradoxes, des problèmes que peuvent amener des questions comme ça dans un cadre critique, hein, où, en fait, la question que je voulais vous poser, parce que c'est une question qui rejoint la posture de la critique, mais qui rejoint aussi la réponse de l'écrivain. Comment l'écrivain réagit par rapport à la critique, c'est que, pour moi, ça va de soi que toutes ces questions de représentativité-là sont souhaitables, défendables et essentielles dans le social, dans les organisations et compagnie. Je me demande, quand on les pose à la littérature, en tant que critique, est-ce qu'on se pose en tant qu'autorité? Est-ce que la critique peut demander à la littérature de représenter autre chose? Ou la littérature doit le faire d'elle-même? Puis ma sous-question, ça serait, est-ce que les écrivains doivent répondre au désir des critiques d'avoir, par exemple, une plus grande représentativité? Ou pas, hein? Ça peut être autre chose. Donc, j'ai en tête le texte de Gilles Marcotte qui s'appelle « Institution et courant d'air » où il aborde ces questionnements-là, puisque c'est le critique, on va faire des liens avec la critique québécoise, donc où il aborde ces questionnements-là, hein, de l'appel de discours critique envers les œuvres. J'ai en tête aussi un texte d'Isabelle Boisclair, où elle parle d'un nouvel espoir pour la représentation des différences sexuelles en littérature québécoise contemporaine. Isabelle Boisclair voit cette nouvelle espoir-là dans une notion qu'elle appelle le parallélisme. Pour elle, un roman, par exemple, elle prend plusieurs exemples, mais un roman qui va donner, par exemple, une place égale à un personnage masculin et une place égale à un personnage féminin, c'est ce qu'elle appelle le parallélisme, est souhaitable, parce que c'est une représentativité, disons, égalitaire et égale entre les deux voies. Je mets les lunettes de Gilles Marcotte et je me demande quel livre ça appelle, avoir un regard comme ça sur la littérature. Est-ce que tous les livres vont devoir être dans le parallélisme, par exemple,
pour c'est pour ça pousser. Que c'est insidieux, bien sûr, parce que on peut pas faire ça, quoi, sinon...
C'est pour ça que je dis que c'est insidieux, parce que, franchement, ça devient des calculs de boutiquier. On veut pas faire ça, on veut faire de la grande littérature, on veut faire de la bonne littérature. On veut pas calculer comme ça, il faut trouver le moyen, en fait.
En fait, je dirais du côté justement de la réception, aussi le problème que ça pose aussi, et en fait, c'est qu'en dans le fond, l'institution littéraire, c'est bon, peut-être moins pire que ça a déjà été, mais je pense qu'en tout cas, peut-être pas foncièrement homophobe, elle a déjà été, juste à regarder disons, la correspondance entre Jude et Claudel, c'est assez hallucinant, mais c'est clair que, par exemple, d'un certain point de vue, elle est encore très hétéronormée aussi, donc c'est clair aussi que les textes, par exemple, écrits qui mettent en scène la différence sexuelle vont peut-être justement, non seulement, je disais tout à l'heure, en amont, justement, il y a parfois des éditeurs qui vont essayer de gommer un peu les spécificités de ces écritures-là, par exemple, bon, ça, disco critique, les jaquettes et tout ça, mais en même temps, la critique aussi joue peut-être aussi ce rôle-là, c'est-à-dire un peu de pas mettre nécessairement l'accent là-dessus, de sorte que ça devient en quelque absent du discours aussi.
Au niveau de la critique, je pense que c'est faisable peut-être juste de souligner, de justement, ben, au niveau de la représentation, « Ah, oh, regarde, me semble qu'il y a quelque chose... » C'est pas tant pour pousser les gens, « Hey, faudrait que tu fasses ça comme ça, faudrait que tu écris comme ça. » Peut-être juste réalisation de prendre conscience, « Hey, t'as peut-être une posture privilégiée dans la vie et t'as pas été amené à voir si ça, ça... » Peut-être juste une réflexion sur l'écriture, en fin de compte. Au niveau aussi de, je pense à la bande dessinée de Diane Ogunsawin, Jeune et fille. Dans la version française, sur la page couverture, on voit deux femmes, en fait, qui, un couple, qui sont en train d'entretenir une relation sexuelle. Mais dans la version anglophone, dans une entrevue, Diane Ogunsawin a dit qu'on lui a demandé, en fait, de mettre une couverture par-dessus parce qu'il était hors de question qu'on voit ça puis que ça passe comme ça, tu sais. Ça a été publié l'année passée, en 2016. On s'entend, je dis, il y a quand même une grosse question à se poser. Puis oui, c'est hétéronormatif, oui. Et on pourrait aussi être amené à parler peut-être, au lieu d'identité sexuée, d'identité sexuelle, justement, de problématiser plus l'hétérosexualité. Parce que pour moi, c'est pas juste ça, justement, le lesbianisme. C'est pas une insulte non plus, c'est pas un terme injurieux. C'est une perspective qui permet d'amener un peu vers un peu de gender trouble, justement. Alors, voilà, c'est ce que je dirais.
Je suis d'accord avec Olga et Maria. Je suis d'accord que ce serait complètement ridicule de demander une certaine parallélisme, parce qu'il existe une diversité de catégories, d'appellations à n'en plus finir, et qui se créent, qui se recréent, qui se deviennent tous les jours. Par contre, de restituer, de questionner le pouvoir dans la représentation littéraire, dans l'institution littéraire, c'est super important. C'est demander c'est qui a le pouvoir de dire, c'est qui publie, c'est quoi la valeur que ça accorde au livre en conséquence. Si c'est juste des hommes blancs cis qui publient, qui ont les maisons d'édition, ce qui n'est pas le cas, heureusement, mais je veux dire, c'est quand même un personnage qui est surpuissant dans notre société, puis qu'il faut absolument déconstruire, démanteler, puis carrément donner flambeau à des personnes de couleur, des personnes autochtones, des personnes à l'identité de genre multiple, qui sont des classes sociales qui n'ont pas la visibilité, qui n'ont pas le don de parole et qu'on ne cause pas dans notre société. Ouais, je suis un peu anarchiste, mais j'ai quand même l'espoir que ces voix-là se font entendre de plusieurs sources différentes. Et pour moi, le zine, c'est une chose extrêmement importante qui doit prendre de l'ampleur et qui doit prendre de la voix. Souvent, c'est gardé dans des foires un peu limitées. Dans les réseaux, ça se passe de main en main, ce qui est une grande force aussi. Mais qu'absolument, on doit trouver les zines en librairie, on doit se les passer, on doit en parler, on doit les critiquer aussi pour leur donner voix. Parce qu'en effet, il y a des personnes comme Marie-Ève, je l'ai dit tout à l'heure, qui ne seront jamais publiées. Ne seront juste tout simplement jamais publiées. C'est important de se la rappeler.
L'autre question que je voulais amener, c'est, on a parlé un peu tout à l'heure avec les deux premières interventions, surtout de la question de la fluidité des genres, qui est quand même un élément esthétique qui est présent dans les textes qui se publient actuellement, qui nous intéresse aujourd'hui. Mais j'aimerais penser la fluidité des genres aussi à la lumière de ce que tu as dit, Nicolas, sur la terminologie et les catégorisations qui sont évidemment problématique, que t'as super bien soulevé, je trouve. Je me demandais, puis j'ai en tête aussi, comme je disais, nous avons quatre écrivains aussi avec nous, j'ai en tête un peu aussi ce que vous écrivez. Il me semble que dans votre poésie, Toineau et Marie-Ève, on a vraiment une poétisation d'un genre qui refuse les catégories, où le langage n'arrive jamais à fixer ou à déterminer précisément, que ce soit le genre sexuel ou que ce soit d'autres images poétiques. Je dirais que généralement, ce sera un trait de vos poésies, cette échappée de la détermination, cette fuite-là. Toineau, j'ai en tête un vers à un moment donné où tu parles de la lumière. Et tu dis, je vais le lire, ne théorise pas la lumière, elle meurt. Hein? Donc, même si tu écris sur la lumière ou si tu fais des poèmes qui parlent de lumière, il y a quand même cette idée-là que la théoriser, la fixer, la déterminer, c'est la tuer. Cette fluidité des genres-là, par exemple, me semble vraiment différente dans ce que t'écris, Nicolas, dans Queue. J'interpréterais Queue comme une espèce de volonté ou de désir de la fluidité des genres qui achoppe, qui rate toujours. Il y a une espèce de retour constant à des positions qui nous échappent. J'avais pensé faire lire un extrait, je pense qu'on n'aura pas le temps, mais je vais juste le en lire un petit bout. Il y a un passage à la page 19 où tu dis « On suce ou on suce pas, on se fait sucer ou on se fait pas sucer, on met ou on met pas, on se fait mettre ou on se fait pas mettre, point barre, pas de zone grise, pas d'entre-deux. » Donc, il me semble que ça représente bien ce désir-là que le narrateur, personnage, a d'une fluidité qui fonctionne jamais tout à fait. Donc, j'aimerais vous entendre peut-être là-dessus.
En fait, oui, c'est vrai que, par exemple, dans mon écriture, dans Queue, justement, c'est peut-être plus, comment je pourrais dire, plus tranché à quelque part, justement, avec des vers comme « on suce pas » ou « on se fait, on met ou on se fait pas mettre ». C'est peut-être aussi parce que, historiquement, et là, je fais peut-être référence aussi à un texte qui m'a marqué, qui est cité en épigraphe dans le livre, c'est « Black Diva » de Jean-Paul Daou. Et en fait, c'est que j'ai toujours trouvé, en tout cas dans l'univers, disons, gay en tant que tel, il y a toujours une dévalorisation en fait du féminin. En fait, lorsqu'on associe l'homme au féminin, évidemment, c'est toujours d'un point de vue extrêmement négatif. Justement, dans Black Diva, dans les premiers première strophe, dans les premiers vers, Jean-Paul Daou parle du fait que justement, lui, il joue toujours le rôle de la femme de ménage dans les tripes de gars. Ben, c'est un peu ça aussi que j'ai essayé de remettre un peu en scène, c'est-à-dire cette idée, justement, au sein de la communauté gay où il y a une valorisation justement de l'hyper-masculinité. Ça se voit déjà des années 70-80 avec l'apparition du clone, c'est-à-dire cette espèce de gars en débardeur ou camisole, jeans, moustache, baraqué comme c'est pas possible, cheveux brosse, cheveux coupés en brosse, manteau jeans, bref, la totale. Et c'est un peu ça aussi que j'ai essayé de mettre en scène, puis justement de montrer que justement, non, cette fluidité-là n'est pas là parce que, disons, moi, peut-être que je la performe un peu plus ou je voudrais la performer un peu plus, mais dans un milieu, une communauté où finalement, c'est comme plus ou moins accepté. C'est-à-dire, il y a justement il y a des catégories et ceux qui s'en écartent, finalement, ben, déjà, même si c'est dans un milieu, on va dire, entre guillemets, dominé, ben, on se retrouve encore plus dominé. Donc, on est comme... On se retrouve vraiment dans les marges totales. Donc, c'est un peu ce que j'ai essayé de mettre en scène dans cette écriture-là, avec justement peut-être des déclarations choc, ou justement des vers, disons, plus punchés de ce côté-là. Merci.
Donc, de l'importance de la fluidité en écriture, c'en est une bonne à se poser, parce que, je veux dire, les mots nomme, on s'en tire pas, puis de dire une réalité lui donne une force, une vérité qui est dure, mais après l'avoir nommé, de la dépasser, tu sais, de devenir autre. Ça me rappelle un écrit de Anne Carson qui parle des poètes Sappho et Marguerite Porrette, qui était une hérétique du Moyen-Âge, qui était brûlée, et de... Bref, je vais parler de Marguerite Porrette, qui avait écrit un livre sur comment communiquer avec Dieu un peu, et en soulevant le paradoxe en disant très bien qu'il n'y a pas de façon écrite et pas de manière à suivre un peu pour arriver à Dieu, et que toute personne qui écrit pour dire le mode d'emploi, eh bien, se trompe. Et... Donc, quelque chose d'intéressant dans vouloir exprimer l'inexprimable, pour assez certain, pour ramener un cliché. Mais, donc, d'écrire sans figer, j'ai pas de réponse à ça. J'essaye tout le temps. Je suis constamment en tentative. Et j'échoue constamment aussi. Mais il y a une beauté dans échouer. Et, comme d'échouer à être quoi que ce soit qu'on veut qu'on soit, il faut juste admettre notre faillibilité inhérente. C'est ce que j'encourage tout le monde à faire.
Maria, je me demandais si tu l'as rebondi.
Oui, un peu. Ce que je peux dire, personnellement, j'ai rien contre nécessairement les catégories, parce que je les vois pas tout à fait comme des catégories. Tout d'abord, comment on est introduit à ça? Moi, personnellement, trouver une communauté lesbienne à Montréal, quand je vais dans un milieu très fermé, très reclus, très autoritaire, m'a fait le plus grand bien. Je l'ai pas vu comme ça. C'est ça, on peut le voir aussi. Certains gens, certaines personnes peuvent restreindre l'identité. Et ça devient très nocif. Mais je pense aussi qu'il est possible, comme on pense aussi beaucoup de féministes noires états-uniennes, dont Audre Lorde, Bell Hooks, qu'il est possible aussi d'être une chose et une autre aussi. Et ça peut s'additionner. Et comme l'a dit Mimi aussi, c'est un processus, ça peut changer. Je vois ça plus, au lieu d'une catégorie, je vois plus comme un cadre d'intelligibilité, moi, qui me permet d'avancer. Puis à travers l'écriture, c'est ça, ça me permet d'explorer. OK, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux aller aussi au-delà de ça? Qu'est-ce que ça devient après ça? C'est ça, apparemment, pour quelqu'un, si une communauté parle en tant que gay, lesbienne, trans, ça peut être important pour, par exemple, acquérir des droits sociaux. C'est bien, ça peut être important pour nommer les choses. Si on veut restreindre, par exemple, la littérature, voici un texte, c'est écrit par une femme lesbienne, parce que c'est juste lesbienne, etc. Ça restreint trop. Mais je pense qu'il y a une manière à avoir une espèce de mouvement de va-et-vient à travers ça, de très critique. Donc oui, les catégories, oui, le déranger le genre, j'aime beaucoup le faire, notamment à cause de ma posture qui est très fluide entre le féminin et le masculin, avec la nomination Butch que je me suis donnée. Mais oui, c'est ça, je pense, aussi que les canaries peuvent être importantes de, pour certaines personnes, certaines communautés, vraiment à quel but. Voilà, il faut se poser la question de la posture.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'on le retrouve aussi dans ta poésie, cette, où tu vas utiliser les termes, par exemple, masculin, féminin, hein, qu'on peut, mais toujours dans une tentative, de le faire dérailler ou de le faire, de le faire changer de sens, en tout cas, de d'amener le masculin puis le féminin ailleurs, hein. Je voulais trois vers très courts. Ne rien pardonner, je veux renaître, faux mâle ni femelle. Donc, on envoie, je pense, un exemple dans cet extrait-là. Je vais rebondir avec un extrait de High Water, donc ton premier roman, Olga. Ouais, je me demandais si tu pouvais peut-être lire cette phrase-là, puis j'ai une question ensuite qui vient.
La sexualité?
Ouais, juste celle-là.
La sexualité conduit d'un point à un autre, mais il n'y a pas de carte pour les territoires du sexe. Dès que l'on s'éloigne un peu, et de même qu'aux quatre coins des cartes anciennes on dessinait jadis des monstres figurant des terra incognita, où vivaient pourtant quantité de gens qui pratiquaient ces territoires sans carte, à notre tour on griffonnait quelques images pour figurer en ellipse les territoires non cartographiés.
Donc ma question, avec cette belle image de territoire non cartographié...
C'est comme la phrase la plus dolle.
Ah, elle la trouve belle, moi.
Non, mais c'est comme la plus prise de tête. Le livre n'est pas comme ça.
Le livre est très imagé, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup. Puis, parce qu'il me permettait de poser une question, en fait. Je trouve ça très égoïste. Mais une question que j'ouvre à tout le monde, qui je pense qu'il va être notre dernière avant d'ouvrir aux questions du public. J'aimerais savoir qu'est-ce que peut... pour vous, la littérature, pour cette cartographie des territoires, non cartographie de la sexualité?
Que peut la littérature, justement, pour ces cartes non cartographiées? Moi, disons, je m'inscris dans une pratique qui relève beaucoup de l'intime. J'aime... dans l'écriture, me mettre en danger, me mettre en scène aussi, me mettre en danger. Et je pense qu'en tout cas, pour moi, c'est là justement, c'est... Par exemple, j'avais déjà écrit un recueil de poèmes auparavant que j'avais publié dans une autre maison d'édition en Beauce, d'où je suis originaire. Et en fait, déjà, ça, j'abordais la thématique homosexuelle, mais derrière des métaphores, je me retranchais derrière vraiment des images, des trucs un peu abscons. Exemple, je faisais référence, en fait, à un moment donné, il y avait un vague, c'était numéro de code 1317, qui faisait référence à un bar à Sherbrooke, maintenant démoli, qui s'appelait le 1317, je veux dire, à un moment donné, il faut le savoir. Ça fait, il y avait à peu près juste moi, puis les deux, trois gars de Sherbrooke qui m'ont dit, on fait, ah, ok, t'as, c'est ça. Et puis, finalement, je me suis rendu compte, quand j'ai commencé ce texte, que ce que je voulais, c'était aller au plus près de ma réalité, y aller sans phare, donc, avec une esthétique peut-être plus brute, viscérale, et vraiment, pour moi, comment arriver à, ou comment défricher, disons, des territoires inconnus, en tout cas, avec eux, je pense l'avoir fait dans un certain sens, du moins j'espère, c'est avec justement ce parti pris pour l'intime, l'authenticité aussi la plus parfaite, et aller le plus loin possible, avec aucune censure, pour moi, ça a été vraiment ça.
Moi, ce à quoi ça me fait penser, cette question-là, c'est plutôt que peut la sexualité pour la littérature. Non, mais c'est vrai, c'est ce territoire immense qui est inconnu, incroyable, étonnant, bizarre. C'est ce territoire-là qui est un paysage immense pour la littérature. C'est pour ça que j'étais mélangée par ta question, parce que je la prends à l'envers.
Je prends ça.
Ah oui, pardon.
Que peut la littérature nous sauver? Je dirais, dans le cas des existences lesbiennes qui m'intéressent particulièrement, mais ça peut permettre, je pense, de conjurer leur absence, en fait, sociale, historique et tout. Je dirais à peu près ça.
Je suis encore pris dans la réponse à l'Olga que j'ai vraiment, vraiment aimé.
Donc, si vous êtes d'accord, je vais prendre quelques questions du public, puis j'ai menti, genre une dernière question après. Donc, est-ce que vous avez des questions, cher public? Roxane Desjardins.
Merci à tout le monde. Mais je ne sais pas, en fait, ça va faire suite à la réponse de Nicolas. En fait, c'est assez clair quel est le rapport entre l'écriture et le réel dans ce projet, dans le projet Queer, mettons, mais j'aimerais entendre les autres participants à la table ronde parler de... c'est quand même très différent d'écrire un livre de fiction. On puisse toujours dans son expérience qu'on écrit un livre de fiction ou qu'on écrit de la poésie, mais c'est quoi le rapport entre le choix de la forme que vous faites et le réel? Et est-ce que la littérature influe sur le réel ou le réel influe sur la littérature? Et comment est-ce que ces deux choses-là se placent dans le cadre de la... et surtout la mouvance des genres? Je pense que j'ai envie de vous entendre.
C'est une question de
wow! Merci, ma question.
C'est des grandes questions, hein? Écoute, je suis pas sûre de pouvoir y répondre tout à fait. Ce que je peux dire, ma pratique d'écriture, j'ai un roman que j'ai écrit récemment. Au niveau de la forme, je réfléchis aussi à la question de l'identité, du gender, etc. Et je fais ça j'écris un roman par un peu avec des lettres par correspondance, en fait, épistolaire. Et ça me permettait un espèce de rapprochement du réel à travers la fiction, vraiment, au niveau de ramener l'intimité, mais de l'espèce d'effet de mise à distance très intéressant. Sinon, ça peut être très large, réel, littérature. Sinon, je ne sais pas si quelqu'un veut dire.
Pour moi, depuis que j'écris. La poésie, ça a été une façon de nous confronter à ces réalités qui sont très, 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 très internes et très abstraites des fois, et aussi à ne pas me représenter dans des termes plus prosaïques, dans la narration. Ça a été une façon de ne pas nommer directement les choses et aussi garder une certaine ouverture là-dedans, mais il y a une certaine lâcheté aussi que j'essaie de conjurer personnellement. En me mettant plus en jeu aussi, plus en danger. Pour moi, ça a toujours été très, très dangereux écrire psychologiquement, spirituellement, mais aussi j'ai envie de le lancer dans la sphère publique aussi et de l'ouvrir à la critique un peu plus. Je sais pas. Faites ce que j'avais là-dessus.
Il y a d'autres questions? Pas d'autres questions?
C'est bon,
on va voir du vin, je vais y aller avec ma dernière. Dans ce cas-là, j'aimerais qu'on élargisse juste un peu sur donc le corpus, mettons, québécois contemporain. Puis, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a un livre, un auteur que vous voudriez nous présenter très rapidement avant qu'on finisse, qui vous intéresse et que vous voudriez partager à notre auditoire? Un livre.
Ben, disons, dans les derniers que j'ai lus, là, que, justement, qui m'ont intéressé, qui mettent en scène justement la sexualité, ben, je pense en fait, et là je fais pas de la promotion pour Anne-Marc, mais je pense à Prague de Montpellier, parce que j'ai tellement trouvé que c'était vraiment une proposition extrêmement intéressante. Non seulement elle est intéressante, mais surtout, c'est l'idée qu'au début, quand on lit le roman, on a l'impression, bon, on se dit, ça va être un peu des scènes de base un peu qui suivent, puis finalement, vers peut-être le milieu du roman où on a peut-être l'idée, ou en fait, peut-être de le laisser de côté parce qu'on se dit, bon, où est-ce que ça mène, on sait pas trop où ça... vers quoi finalement, c'est quoi le projet autour finalement de ce roman-là, mais c'est là que justement les choses se basculent complètement. En tout cas, pour moi, c'est là que j'ai trouvé que ça devenait vraiment extraordinaire, puisque justement, c'est là où la narratrice finalement... entreprend finalement, ou décide de, parce que justement son rapport au réel, on parlait du réel tout à l'heure, donc qui est complètement en fait un peu distorsionné complètement, elle échappe en quelque sorte au réel, ou elle sent qu'elle échappe au réel, et finalement le roman, ou en fait l'écriture, j'ai trouvé que c'était vraiment une réflexion sur l'écriture aussi, jusqu'où il faut aller dans l'écriture justement pour se rattacher au réel. Et c'est là qu'elle décide justement, bon, plus ou moins consciemment, mais de, en quelque sorte, plus ou moins s'aborder son couple, et continuer finalement cette relation extra-conjugale amoureuse pour que son projet renaisse, pour que la création, elle, vive et avance. Et
le rapport s'inverse.
Et puis, justement, tout ce rapport-là, cette réflexion à l'écriture au réel que j'ai trouvé extrêmement intéressante. Et bien sûr, ça amène aussi des questions par rapport à la sexualité.
Ouais, c'est un peu compliqué pour moi, la position ici, parce que, bon, en tout cas, je ne vais pas faire la promo du livre de Kevin, quand même, mais je veux juste souligner l'énergie narrative de son livre, je ne peux pas m'en empêcher, c'est comme ça, je suis vraiment marchand de tapis. Et j'ai eu la chance de lire, j'ai pas lu tous les livres des panélistes, malheureusement, avant de venir, j'ai pas pu, je le ferai, mais j'ai pu lire le week-end dernier ton livre, j'ai beaucoup aimé le rythme de ton livre, j'ai beaucoup aimé ce livre aussi, je suis à côté.
Je vais prendre encore.
Ah oui, maintenant je veux le partager.
Oui, c'est très aimable. Moi je vous dirais, j'ai bien aimé le carnet écarlate d'Anne Archet. C'est fait sous forme de fragments érotiques lesbiens, justement. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une si grande répétition de scènes sexuelles, de mise en scène, en fait, que ça vient à banaliser complètement la sexualité, voire à l'épuiser un peu. Et puis, j'ai aimé aussi, bon, parce qu'il y a un sens de l'humour assez incroyable, ça fait du bien. Et puis, il y a une mise en scène aussi de pratiques BDSM, d'une communauté qui peut représenter encore dans la littérature. Alors, voilà. Et puis, j'ai juste à dire qu'à l'extérieur du Québec aussi, il y a des choses très intéressantes qui se font en ce moment. Je suggère beaucoup Indian Tango d'Ananda Devi. C'est un roman extraordinaire qui met en scène une écrivaine indienne et une femme quinquagénaire mariée avec un enfant qui se rencontre.
Non, mais la pauvre, non, mais dit comme ça, c'est comme un quinquagénaire, elle a un enfant.
Elle est présentée comme ça, en fait, pour essayer d'érotiser un corps un peu érotisé dans la littérature ordinaire, en fait. Et puis, c'est d'une poésie magnifique, donc voilà.
Je vous recommande aussi Anne Archet, qui c'est super intéressant parce qu'il y a une espèce d'exploration des scripts sexuels, de multiplication pour trouver des nouvelles manières de représenter, de parler de la sexualité en très courts fragments, donc c'est super intéressant. Toi, Anno?
Mes lectures queer ou connexes viennent surtout d'ailleurs du Québec, en fait, et c'est pour ça que j'ai cité Maggie Nelson, qui est californienne, qui est une auteure actuelle qui me fait vibrer de mille et une façons. Mais si je voulais rester sur ce que certains, le territoire de ce que certaines personnes appellent le Québec, j'aimerais vous inviter à redécouvrir Marie-Victorin, qui est fucking queer. C'est la description des plantes sexuelles, comment elles se reproduisent, oui. Des semences, oh, les pistils, je capote. Vous savez quoi?
C'est queer, c'est ça. Queer, Marie-Victorin, merci pour ce sublime mot de la fin. Moi, je vais faire mon rondeur de tapis une dernière fois en vous suggérant de lire Animal Lumière de Toine Dima. La Chambre organique de Marie-Ève Maréchal, Queue de Nicolas Giguère, High Water et Destin, et Laurence Cosmonaute de Olga Duhamel-Noyer. Merci à tous d'avoir été là et bon vin.